when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des pros avec Olivier Dartigol, Jérôme Béglé, Gilles-William Golnadel et Georges Fenech. Nous allons évidemment parler ce soir de cet adolescent de 15 ans tué à Châteauroux samedi soir à l'occasion d'une bagarre entre deux jeunes de 15 ans. Je vous propose d'abord de voir le sujet de Maxime Lavandier.
Des bouquets de fleurs et des bougies déposées en hommage à Mathis. Cet adolescent de 15 ans mortellement poignardé samedi. Chez les habitants du quartier, l'émotion mais aussi la colère prédominent aujourd'hui.
C'est une catastrophe. Ça devient n'importe quoi. Là, c'est plus possible.
Je suis complètement chamboulée d'avoir appris ça. J'en ai pas dormi de la nuit quasiment. Là, je suis vraiment pas bien.
Je trouve ça dramatique parce que j'ai un fils de 23 ans qui est sur Châteauroux et malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui, quoi.
C'est à ce carrefour de Châteauroux vers 18h que la rixe éclate. Mathis reçoit plusieurs coups de couteau au thorax. Transporté à l'hôpital dans un état critique, il décède dans la soirée. L'auteur présumé des faits est un autre adolescent âgé lui aussi de 15 ans. Interpellé 2 heures après les faits, il est placé en garde à vue. De nationalité afghane et en situation régulière sur le territoire, c'est un mineur sans casier judiciaire. Mais arrêté déjà 2 fois depuis le début de l'année, pour vol avec violence en réunion, sous la menace d'une arme. Il affirme avoir été frappé par la victime et l'objet d'insultes racistes. Pour le maire de la ville, ce drame témoigne d'une généralisation de la délinquance à l'ensemble du territoire.
L'auteur comme la victime ont 15 ans. Ça, c'est pour moi la preuve de l'ensauvagement, de l'ultra-violence qu'est en train de connaître notre société chez les mineurs. Il y a un vrai sujet national sur cette thématique-là.
La mère du suspect a elle aussi été entendue en garde à vue car elle est suspectée d'avoir porté des coups à la victime après que son fils l'ait poignardé.
Vous vous rendez compte que la mère est suspectée d'avoir frappé le jeune Mathis qui venait de recevoir des coups de couteau de son propre fils.
Et son fils avait déjà été l'objet de la justice quelques mois plus tôt.
Alors je vous propose d'écouter le père de Mathis qui a été interrogé par RTL.
Ça fait plaisir parce que ça nous montre que beaucoup de gens nous soutiennent et aimaient Matou, quoi, aimaient Mathis. Personne ne sait ce qui s'est passé, j'entends de tout et de rien, donc croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête, ça va être long, mais on saura, ça avance bien déjà. Hein. Mais mélangeons pas tout, et faites attention à tous les bords de droite ou d'ailleurs qui s'approprient ce genre de choses. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil, donc on va rester dans la gentillesse. Et puis pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit. Faites attention à ce que vous lisez, c'est tout. Pour Matou, qui était un vrai gentil, soyez pareil.
Et je vous propose d'écouter le témoignage d'une personne qui a sinon assisté, entendu.
J'ai entendu rire et crier. Donc que j'ai regardé par la fenêtre au début parce que j'étais quand même un peu surprise. Parce que c'est un quartier très très calme, il n'y a rien à dire. Et j'ai vu des jeunes, mais comme ça rigolait, je me suis dit « Oh, ils s'amusent ». Puis quelques secondes après, j'ai entendu hurler. Et en fait, le jeune homme qui était debout, la seconde était à terre. Donc je suis tout de suite descendue aider. Le plus dur, c'est surtout qu'on ne s'est pas rendu compte tout de suite que c'était des coups de couteau. On pensait qu'il s'était fait agresser, mais pas qu'il s'était pris des coups de couteau. Donc on s'en est rendu compte un peu tard. C'est peut-être ça ce qu'on... On s'en veut aussi énormément, parce qu'on aurait aimé faire plus pour le sauver, donc c'est vraiment très dur.
Alors il faut évidemment respecter la parole des parents, et notamment du père qu'on a entendu. On va écouter Gilles Averrous, qui a une position qui me paraît surprenante, et ensuite on pourra la commenter.
Cette famille est en situation régulière sur notre territoire. Et la deuxième chose, c'est que la famille de la victime, donc les parents de Mathis, souhaitent pas qu'on porte ce sujet sur la place publique. Et ils souhaitent pas qu'on évoque, qu'on parle d'immigration, qu'on parle de la nationalité. C'est pas quelque chose qui leur ressemble, pour utiliser les mots qu'ils m'ont transmis ce matin. Et donc, ils sont très attentifs à ce que les médias reprennent pas cette thématique pour parler de la mort de l'enfant.
J'ai du mal à comprendre. Hein. Très sincèrement, j'ai du mal à comprendre. Je parle sous le contrôle d'un ancien procureur de la République. En quoi la communication judiciaire d'un procureur de la République peut ou pas prendre en connaissance de cause, dans ce qu'il va dire de juridique, ce que disent les parents? J'observe d'ailleurs, inversement, que je ne sache pas que dans l'affaire Thomas, à Crépol, le souhait des parents d'expertiser le caractère du racisme anti-blanc ait été pris en considération par la justice et notamment par le procureur. Donc ou bien ça va dans leur sens et tout va bien, ou bien au contraire on en profite. Objectivement parlant, pardon de vous le dire, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une rixe. Vous avez parlé de rixe.
Non, moi je n'ai pas parlé de rixe.
Non, mais
jamais. J'essaye que ce mot ne soit jamais employé.
Non, mais c'est le commentaire. Dans le commentaire que vous avez fait entendre, on parle de rixe. J'ai l'impression, mais encore une fois, on attendra, que ce n'est pas une rixe, c'est une agression. C'est une agression par quelqu'un d'origine afghane. Ce sont des faits objectifs, ça. D'accord ?
Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que, évidemment, quoi, ennuyeux ? D'abord, c'est dramatique.
Oui.
La position des parents nous oblige forcément à entendre ce qu'ils disent. Mais je voulais vous faire écouter ce que dit le maire de Châteauroux, parce que je pense qu'il est à côté, le maire de Châteauroux. Parce qu'il parle d'ensauvagement de la société. C'est pas l'ensauvagement de la société en l'espèce. C'est peut-être effectivement une immigration afghane sur le territoire de France qui peut être mise en question. Parce que tous les jeunes de 15 ans n'ont pas un couteau. Mais en même temps que je dis ça, je dis attention, puisque les parents ne souhaitent pas entrer dans cette polémique. Mais écoutons le maire, puisqu'il avait s'était exprimé avant la réaction du père de Mathis.
Les deux protagonistes... L'auteur comme la victime ont 15 ans. Ça, c'est pour moi la preuve de l'ensauvagement, de l'ultra-violence qu'est en train de connaître notre société chez les mineurs. Il y a un vrai sujet national sur cette thématique-là. Il y a besoin aujourd'hui de prendre des mesures rapides. Je sais que le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé sur le sujet il y a quelques jours et a donné, je crois, un délai de 8 semaines pour pouvoir faire des préconisations. Mais il est vraiment très, très urgent de redéfinir une politique en la matière qui soit à la fois sur le plan judiciaire, avec des moyens pour la justice de pouvoir peut-être plus facilement priver de liberté des jeunes de moins de 16 ans qui seraient mis en cause, puisque là, en l'occurrence, le meurtrier, à deux reprises, il a été interpellé ces dernières semaines. Bon, j'avais connaissance que d'un fait qui a eu lieu il y a 8 jours pour un vol avec violence, vol aggravé, hein. Et donc, qui n'avait pas permis à la justice une incarcération.
C'est-à-dire que pour M. Avrous, c'est tous les jeunes de 15 ans. Donc, alors, en fait, on n'en sort jamais.
Oui. Mais on a déjà...
Bah, c'est l'ensauvagement de la société. Non, ce n'est pas l'ensauvagement de la société.
C'est de quelques-uns.
Bon, on a déjà quelques... D'abord, il faut laisser la justice faire son travail, oui. Les enquêteurs. On a vu qu'on pouvait avoir des procureurs de la République assez dissertes. On l'a vu sur l'affaire Kanji. Donc, moi, j'espère que la justice communiquera sur les faits, première chose. Dans ces moments-là, moi, j'ai toujours la volonté de la famille. Elle s'impose quand même sur la manière de donner nos décryptages ou nos avis.
Reste à Crépol, on ne l'a pas beaucoup écouté, la famille, hein, si vous permettez.
Oui,
c'est ce que disait Gilles-William. La famille, là, elle était...
Oui, ça dépend ce qu'elle dit.
Voilà, ça dépend ce qu'elle dit. C'est-à-dire que si elle dit quelque chose qui va dans le sens... Voilà. De l'espace mais médiatique, on l'écoute. Si elle dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'espace médiatique, on ne l'écoute pas.
Dans tous les cas, respecter la parole de la famille. Voilà. Dans tous les cas.
Je vous répète.
Et dernière
que c'est
chose, sur ce sujet, sur cette affaire, nouvelle affaire, un profil quand même se dégage des mineurs, ultra violents, l'arme, un couteau, et deux vols aggravés avant. Donc déjà dans les radars de la justice, avec cette incapacité de notre système judiciaire à interrompre un processus de délinquance par une première décision, Georges pourra peut-être nous dire la nature de cette décision, qui permettrait d'interrompre ce processus de délinquance.
Je vais vous dire quelque chose. Moi j'étais à Europe 1 ce midi et j'ai eu quelqu'un de Châteauroux qui est né à Châteauroux qui m'a dit « je ne reconnais pas ma ville ». Voilà.
parce qu'aujourd'hui, il y a une immigration folle à Châteauroux, comme à Bordeaux, comme à Nantes, comme dans toutes les villes de France. C'est tout ce que disent les uns et les autres. Je ne reconnais pas la ville dans laquelle j'ai vécu. Est-ce qu'on peut poser, est-ce qu'on peut se demander pourquoi les Afghanistans, ou certains les Afghans, pourquoi sont-ils automatiquement, parce qu'on en est là,
pas tous.
C'est automatique. Tu demandes un Afghan.
Si, parce que
Est-ce qu'on peut simplement se poser cette question? Mais, est-ce qu'on a le droit en fait de simplement
projet politique ou quasi automatique?
Est-ce qu'on a le droit politique? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de poser la question des réfugiés politiques en France?
Non, mais pas tous les Afghans.
Tous les Afghans veulent venir en France, ils viennent.
Quasi. Ah, d'accord. Je pense.
Ils ont le statut de réfugié politique quasi automatique.
Et on entend ce qui s'est passé. Et Vincent Herouet le dit.
Non, moi j'avais entendu qu'ils avaient tous quelque chose de criminogène.
Non,
voilà. Que j'avais compris.
À partir du moment où un Afghan demande le statut de réfugié politique, il l'obtient.
En tant que modérateur, je voulais que
vous avez ellipsé une partie de votre phrase.
Tous les Afghans qui demandent l'asile politique en France peuvent l'obtenir.
Non, le statut de réfugié politique.
Le statut de
Afghan et quelques autres d'ailleurs, comme les Pakistanais.
Donc évidemment, cette question, elle est légitime. Enfin, on ne peut pas ignorer en permanence ce que disent les uns et les autres. Comment en plus on refuse de les interroger, tous les Français, sur ce sujet? Parce qu'on a tellement la trouille.
J'ai pas l'impression que la politique migratoire n'était pas questionnée dans les derniers mois dans notre pays.
Mais elle n'est pas questionnée. Ah, si. Elle n'est pas questionnée. Précisément, la réponse, elle n'est pas questionnée. Questionnée, c'est tu vas au peuple.
La dernière loi.
Elle n'est...
Non, mais il n'y a pas...
Allez, Jean Chenec.
Non, mais je pose la question.
Oui. Elle n'est pas questionnée. Il y aura peut-être une réponse aux élections européennes.
Non, Pascal, moi, ce que je voudrais dire, et je le dis avec une très, très forte sincérité, je suis animé ce soir, en dehors de la compassion qu'on peut avoir pour la famille, d'un sentiment de colère. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le 30 septembre 2021, on a désarmé la justice des mineurs. C'est-à-dire que c'était Mme Belloubet et M. Dupond-Moretti qui ont réformé l'ordonnance de 45 et qui ont fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus incarcérer un mineur, même pour 15 jours. Parce que la procureure l'a dit. La procureure a dit qu'on ne pouvait que mettre un contrôle judiciaire. Alors qu'avant 2021, on pouvait au moins incarcérer 15 jours.
Mais sur devant la gravité,
attends,
c'est quoi?
Attends, 15 jours. 22 avril. Oui. On est le 28 avril.
Mais sur devant la
gravité. S'il l'avait incarcéré, ces 15 jours, renouvelable une fois 15 jours, on n'aurait pas eu cette mort, voyez-vous. Et donc, on a désarmé la lutte contre la délinquance. Les juges, même s'ils avaient eu l'intention d'interrompre, comme tu disais, cette délinquance tout de suite, en prononçant une peine de privation de liberté provisoire, ils ne pouvaient pas le faire, puisque la réforme de 2021 interdit aujourd'hui aux juges de le faire. C'est pour ça que je suis en colère. Il y a une très lourde responsabilité politique avant qu'elle soit judiciaire dans cette affaire.
C'est QFD.
Je crois que Manuel Valls disait à peu près la même chose, et on va l'écouter, il était ce matin avec Sonia Mabrouk.
Les homicides et les tentatives d'homicide augmentent depuis quelques années. Donc ce ne sont pas des faits divers, ce sont en effet des faits de société qui disent beaucoup sur la violence. Donc cela pose des questions sur la manière dont il faut agir, évidemment sur l'immigration, évidemment sur les mineurs non accompagnés, c'est à la fois des réponses françaises et européennes, et puis aussi sur une réforme profonde de la réforme des mineurs, en s'attaquant à la question de l'excuse de l'âge, sans doute en inversant la preuve de celle-ci, puisque un mineur qui tue à 15 ans mérite évidemment une réponse extrêmement sévère, avec tout l'accompagnement ensuite.
Et j'ajoute qu'il faudra vraiment un jour se pencher sur les décisions de l'OFPRA et de la Cour du droit d'asile. Il va vraiment un jour falloir regarder de près ce qui se passe. Personne ne veut aller sur ce sujet-là.
Bien sûr.
Et effectivement, les Français ne sont absolument pas interrogés là-dessus. Parce que si vous leur demandez leur avis, je connais leur réponse.
Oui, bien sûr.
Après, on dit effectivement, le Rassemblement national, augmente dans les sondages, etc. Les Français ne sont pas interrogés.
Oui, ça ne m'a pas échappé.
Ils ne sont pas. La dernière fois qu'ils ont été interrogés, 2007. C'est en 2005. L'OFPRA, vous avez déjà vu une enquête sur l'OFPRA et sur le droit d'asile? Jamais.
Le rôle des ONG. Le rôle des
il y a
ONG.
Didier Lesky qui en a parlé dans un livre très bien.
Oui.
Il l'a dit. Les décisions qu'on prend, elles sont ensuite remises à néant par des associations que l'État subventionne.
Bien sûr.
Que l'État subventionne. On subventionne les associations qui viennent détruire vos décisions.
À commencer par la CIMAD. Mais que l'État prenne la main sur l'accueil, alors.
Mais, non, mais on peut, non mais Olivier, c'est un peu de on peut modifier les règles. Oui, on a le droit de modifier les règles.
Mais Olivier, la vérité, c'est qu'on ne peut plus accueillir. C'est ça la vérité. On ne peut plus accueillir personne.
On peut pour décider faire de notre politique migratoire. Mais je suis défavorable.
On ne peut plus accueillir personne parce qu'on est
zéro. Vous allez mais on est incapable. L'économie nationale à terre.
Vous savez, l'émigration de travail, combien ça représente? C'est rien. Oui, c'est rien, l'immigration.
Alors, les étudiants, 100 000, on fait quoi? Mais si vous dites immigration zéro, les étudiants, plus de 100 000 par an,
mais
on fait
les
quoi?
Les vrais étudiants, on les fait venir. Bon. Mais on s'aperçoit sur les dossiers que...
c'est pas zéro, Pascal. Mais voilà,
vous dites qu'il faut reprendre le contrôle des flux migratoires. Mais je rappelle
que
le Conseil constitutionnel a dévitalisé la loi sur l'immigration complètement.
La immigration. Je vous ai dit déjà la première chose à faire, il n'y a plus une seule régularisation sur le territoire de France. Plus une seule.
Et des travailleurs sans papier qui travaillent depuis
10 ans. Il n'y a plus une régularisation parce que tu fais créer un appel d'air. Même personne ne le propose. Ça, c'est quand même simple de dire qu'il n'y aura plus une régularisation sur le sol de France.
Mais est-ce que tu as conscience que c'est une question de vie ou de mort?
Oh non, arrêtez avec ça. L'argument jouer sur les peurs.
Mais c'est pas jouer sur les peurs, c'est ce que dit. Mais interroger les Français.
Je suis d'accord sur le fait de les interroger. Mais j'ai dit là-dessus. Ouais. Est-ce qu'on peut retrouver la maîtrise de notre politique migratoire en réfléchissant d'ailleurs comment on vient de le faire? Quid des étudiants, de l'immigration de travail, de l'asile politique.
Ça a été fait.
Sans se dire c'est une question de vie ou de mort.
Ça a été fait 30 fois.
Un candidat fait ça à la présidentielle, ça ne lui a pas porté. Ça ne lui a pas porté.
Non, mais monsieur, il se trouve que. Je me présente à aucune élection.
Oui, moi non plus.
Et que je dis que le problème de l'immigration est un problème existentiel pour la France et les Français.
C'est un problème sérieux.
Non, pas du tout.
Non, mais il a raison,
il est existentiel.
Écoutez, comment vous expliquez.
C'est pour ça qu'on ne pense pas tous la même chose.
Comment vous expliquez que nombre de gens disent je ne reconnais plus la ville dans laquelle j'ai grandi, je ne reconnais plus le pays dans lequel j'ai
je
grandi.
Je n'ose pas sortir le soir.
Enfin, vous entendez ça quand même.
J'ai passé, il y a 15 jours, un week-end à Bordeaux. J'ai vu une situation difficile sur la place Saint-Michel, aux alentours de la gare Saint-Jean, bien sûr, mais je ne peux pas vous dire qu'il y a une submersion. Mais vous le savez, sur la ville de Bordeaux, comme vous le présentez.
Moi, je ne connais pas
Mais sauf que ce que vous dites, c'est absolument terrible. C'est-à-dire que la gare, c'est quand même un endroit. C'est quand même un endroit important, la gare.
Mais je ne vous dis pas que tout va bien.
En fait, c'est fascinant.
Pascal, quand vous me
parlez. On ne vous dit pas que c'est une submersion.
Ah, mais si, vous ne reconnaissez pas la ville.
Ah ben on reconnaît.
J'ai connu Bordeaux, j'étais étudiant.
Et vous reconnaissez la ville?
Oui.
Olivier, tu ne peux pas contester. Tu ne peux pas contester que depuis 2017, il y a eu 5 millions d'étrangers en plus qui sont rentrés en France.
C'est contesté.
Alors ça, c'est
pas contesté. Il y a un truc qui n'est pas contesté, ça c'est pas contesté.
5 millions.
T'as raison, il y en a peut-être 6.
Non.
Non, mais on n'y arrivera pas.
Nous n'y arrivons pas.
Continuons. C'est-à-dire que chaque mois, c'est pire. Chaque mois, c'est pire. En termes de sécurité, en tout et d'un.
Mais bon. Je veux simplement vous dire que je suis en accord avec votre slogan immigration zéro. Voilà, mais on peut en discuter quand même.
Ce sera acté, actez-le.
Écoutez,
je suis en désaccord avec ça. Je pense que ça ne peut pas fonctionner. Et heureusement.
Et bien, moi, je vous dis une seule chose, on demande aux Français. Ouais, mais vous avez bien peur, hein. C'est ce qui vous effraie, au fond. Parce que si vous demandez aux Français immigration zéro, à 80%, ils répondent oui. Et après, et après. Ah oui, d'accord.
Il faudra peut-être quand même.
Il faut peut-être juste les écouter, en fait.
Oui.
Et Olivier, on va écouter, on va marquer une pause.
C'était quand même mieux avant.
On marque une pause. Nous marquons une pause et nous revenons.
Oui.
Bon, la Sorbonne à présent, parce que c'est aussi un autre sujet qui dit tout sur notre société, bien évidemment, et la faiblesse de l'État, notamment la Sorbonne. Alors aujourd'hui à Sorbonne, quand même fort sans doute de ce qui s'est passé à Sciences Po, il y a eu intervention antisémitisme décomplexée après les blocages à Sciences Po en fin de semaine dernière. C'est à la prestigieuse université de la Sorbonne de subir les manifestations d'une minorité active d'étudiants. Écoutez, Yvan Lecause qui est syndicaliste étudiant uni.
Ce qui est arrivé, ce qui est en train d'arriver à la Sorbonne, c'est des manifestants pas seulement pro-palestiniens, mais également pro-Hamas, qui ont d'abord occupé et bloqué l'école, et qui maintenant même sont en train de faire une manifestation devant après avoir été évacués. Ça c'est dû au laxisme de Sylvie Retailleau, qui, au lieu de condamner les agissements de Sciences Po Paris, a préféré les féliciter la direction lorsqu'elle a décidé de ne pas sanctionner les manifestants pro-palestiniens. Et donc on se retrouve dans une situation où ces manifestants pro-palestiniens se croient tout permis. Ça, c'est pas venu naturellement. C'est les organisations de gauche et d'extrême gauche qui ont appelé à cette mobilisation. Et donc, elles sont en partie responsables de cette bordélisation de l'université.
Donc ça, c'est à la Sorbonne. Mais revenons à Sciences Po avec aujourd'hui Valérie Pécresse qui a pris une décision forte. J'ai décidé de suspendre tous les financements de la région destinés à Sciences Po tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l'école. Une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite et instrumentalisée par les filles, et ses alliés islamo-gauchistes ne peuvent pas dicter leurs lois à l'ensemble de la communauté éducative.
Pour la féliciter.
Ah oui, bravo. Elle sanctionne la majorité.
C'est pas la première fois. Laurent Wauquiez avait fait la même chose.
Des étudiants.
Laurent Wauquiez avait fait la même chose à Sciences Po Grenoble.
La communication.
Je pense que les présidents de région ont raison de faire ça.
Mais non.
Je ne vois pas pourquoi nos impôts viendraient financer des écoles qui sont maintenant des nids à extrémisme.
Sciences Po, de mémoire, c'est 1600 étudiants. Vous en avez 600 sur le site parisien. C'est donc une minorité, et elle sanctionne tout le monde.
Et bien on fait quoi? On fait rien. Moi, ce qui m'a choqué, vous voyez, c'est que la direction de l'école fasse un deal, passe un accord avec les manifestants pour leur donner deux ou trois.
Il paraît que ça a été redit.
Il y a 15 000 étudiants à Sciences Po en tout. Il y a 200 étudiants chez Guevariste en barboteuse qui ont fait plier et le gouvernement et la direction de Sciences Po.
Et vous trouvez ça normal?
Vous avez M. Attal qui bandait les muscles en parlant d'autorité, qui est allé à Sciences Po, qui s'est couché, lui et son gouvernement, gouvernement paillasson, gouvernement soumission, avec Mme Retailleau, ministre Carpette. C'est ça la réalité.
La chose qui m'a plus choqué, c'est que
ministre de
Retailleau, je n'ai pas entendu depuis 4 jours sur ces questions. Elle est aux abonnés absentes.
Vous n'avez cessé de jouer la musique du retour de l'autorité avec figure d'Attal qui arrivait avec l'atalisme.
Mais vous savez quoi?
Vous déchantez.
Vous savez quoi? Je suis naïf. J'y ai cru, oui.
Ah oui.
J'ai cru que Gabriel Attal allait faire preuve d'autorité. Quelle crédibilité il a, Gabriel Attal, quand il parle d'autorité, alors que Sciences Po, aujourd'hui, Mme Retailleau, elle a félicité, dans un communiqué, la décision de la direction. L'administrateur de Sciences Po qui a été nommé, mais il faut le sortir.
Un homme très estimable, Jean
Basser. Il faut le sortir immédiatement.
Jean Basser est un grand
Moi, je voudrais rester un peu prudent.
C'est un homme très estimable.
J'ai entendu.
Faites attention, Pascal Praud. Oui. Parce que Jean Basser, il est là pour assurer un intérim. Oui. Il a tout simplement un problème. Il y a un blocus.
Non, c'est pas un blocus, d'accord. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que je lui reproche? Aucune sanction disciplinaire pour ces jeunes gens qui ont empêché.
Pascal.
Attendez. Qui ont empêché une élève juive d'entrer dans un amphi, qui ont crié Israël assassin, qui ont empêché de travailler les autres étudiants, et il n'y a pas de sanction.
Oui, mais là, on en discute tranquillement.
Je voudrais simplement être un peu plus prudent, parce que j'ai écouté tout à l'heure l'émission de Laurence Ferrari Punchline. Il y avait une députée de la majorité qui est allée avec ses collègues rencontrer l'administrateur provisoire à Sciences Po qui leur a dit non, les sanctions sont maintenues.
Oui,
les relations avec les universités israéliennes sont maintenues.
Bien sûr.
Alors il faudrait savoir.
C'est pas dans le protocole d'accord.
Non. C'est ce qu'il leur a dit.
Il leur a menti.
J'aimerais bien avoir le cœur net.
Il leur a menti parce que dans le communiqué, c'est écrit que toutes les sanctions n'auront pas lieu.
Il y a trois choses. C'est pas ce qu'il a dit.
Non, mais je veux dire.
Je vais vous dire.
Je ne sais pas en quelle année nous sommes. Très sincèrement, avec l'esprit de collaboration auquel on assiste, je ne sais plus en quelle année nous sommes. Il y a d'abord un discours d'une virulence extrême dans les manifestations, dans les facs, par une minorité agissante, cornaquée par les frères musulmans et les insoumis qui sont comme larrons en foire. Et ce n'est pas qu'ils soient pro-palestiniens, ce n'est pas qu'ils soient anti-israéliens. Ils ont dépassé toutes les bornes. Ils sont pour l'éradication de l'État juif, de la rivière à la mer, ils diffusent tranquillement, et c'est évidemment après que le mythe est affiché, le mythe du génocide. Ça passe crème maintenant, le mythe du génocide. Et en face de ça, vous avez, c'est pas discutable, contre le Pride qu'ils aient évacué tranquillement samedi soir, ils étaient 50, ils ont accepté, un, la suspension des sanctions, et deux, encore plus grave, discuter dans le cadre d'un, ce qu'ils appellent d'un protocole, tonal, ouais, d'un tonal. On est aux États-Unis, même dans l'expression verbale, ils sont fous, d'un tonal. Sur le savoir si on va couper les relations avec Israël
non,
ou
c'est pas sur ça.
C'est comme si des étudiants d'extrême droite avaient pris la faculté qu'on accepte un town hall pour savoir si vous va renvoyer des
étudiants de seconde. Écoutez deux secondes.
Pareil.
Écoutez
exactement.
Si c'est là-dessus.
Non.
Si c'est là-dessus.
C'est une désinformation.
Non. Mais
la discussion ne portera pas sur le fait de savoir s'il faut couper les relations.
J'affirme que ce qui a été indiqué.
Je suis désolé de le dire. Alors écoutez, M. Maillard, puisque M. Maillard est représentant de.
Et le président du groupe Renaissance.
Et il est allé à Sciences Po, il a eu un échange avec un jeune étudiant.
Ça ne vous dérange pas de vous soutenir aussi dans le cours, M. Maillard ? Ça ne vous pose pas de problème ? Vous n'avez pas l'impression que c'est de l'ingérence que vous faites à Sciences Po ?
Monsieur, écoutez, vous savez quoi ?
Vous n'avez pas l'impression que c'est de l'ingérence, la liberté universitaire ?
Il n'y a pas de génocide à Gaza.
La liberté universitaire.
Et une discussion, vous aurez
l'occasion de discuter. Ça ne vous dérange pas la liberté universitaire ? Vous n'avez pas la place pour votre politique à l'intérieur de cette école. C'est pas ce que je vous dis. Vous n'avez pas votre place à l'intérieur de notre école, monsieur. Pourquoi ? C'est pas votre école, la liberté universitaire.
Un député n'a pas le droit d'entrer ici ?
Non, vous n'avez pas à faire de l'ingérence. Vous n'avez pas à faire de l'ingérence. Vous faites de l'ingérence.
Oui, c'est exactement ça.
Vous faites de l'ingérence, c'est ça, c'est problématique.
Vous n'écoutez pas.
Vous avez l'impression d'écouter ?
On est bloqué.
Vous avez l'impression d'écouter,
bloqué.
Moi, je ne vous aime pas en tant que citoyen, parce que je trouve ça honteux que vous veniez dans notre école.
Il y a un génocide en cours à Gaza.
Aucun endroit de la République où un député ne peut pas y aller. Aucun endroit.
Bon, qui s'occupe de ses études, ce jeune ? Voilà, qui l'étudie ? La fac s'est fait pour étudier.
Mais ces jeunes gens,
je veux dire, il y a des gens d'ailleurs qui ne peuvent faire qu'une chose dans la vie, c'est être militant. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Parce qu'ils auront beaucoup de mal dans tous les deux autres domaines.
Bien sûr.
Et l'entreprise, et que s'ils tentent l'aventure personnelle libérale. Parce qu'ils ne sont pas très bons. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est militer.
Ce qui me frappe, c'est Sciences Po qui est devenue cette école qui faisait rêver tout le monde il y a encore 25 ans, aujourd'hui, qui fabriquait des élites, maintenant est une espèce de réceptacle de syndicalistes endoctrinés.
Mais c'est pas vrai ce que vous dites, justement. Là, on va écouter, je vais vous faire écouter Pierre-Alexandre. Il sera demain matin à 9h avec nous. C'est ça qui est le danger, parce que c'est 100 personnes. Il y en a 1500 autres qui ne sont pas comme ça. Écoutez ce que dit Pierre-Alexandre. Il a 23 ans, il est à Sciences Po depuis 5 ans. Et son témoignage est absolument formidable et il devrait être sur tous les plateaux de télévision. Écoutez-le.
Moi, ça fait 6 ans que je suis sur le campus de Paris à Sciences Po. Je n'ai jamais vu l'école dans cet état-là. En réalité, il y a un changement de public, très clairement, à Sciences Po. C'est en train de devenir de plus en plus une école de militants. Nous, on veut simplement étudier. Et quand on voit qu'il y a 15 personnes qui viennent bloquer le campus et qu'on leur cède tout, c'est-à-dire qu'ils viennent perturber les examens, ils viennent bloquer Sciences Po, ils viennent intimider d'autres étudiants, des personnes qui ne sont pas d'accord avec elles, et à la fin, on leur cède tout. Vous avez parlé d'une direction paillasson. Aujourd'hui, il n'y a même plus de direction, il faut dire les choses. Donc c'est très triste en réalité. On est en colère, on est sidéré et on a honte d'être assimilé. On a honte d'être assimilé à ce qui est en train de se passer à Sciences Po. La réalité, c'est qu'il faut quand même rappeler qu'à Sciences Po, il y a 55% des étudiants qui affirment avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon. Mais la réalité aussi, c'est qu'il y a énormément d'étudiants qui souhaitent simplement travailler, qui sont en train de passer le concours de l'ENM, qui se préparent au concours de l'ENA, des étudiants comme nous qui sommes en train de préparer l'examen du barreau. Donc en fait, il y a énormément d'étudiants qui n'ont pas le temps tout simplement de faire des espèces de pseudo-manifestations devant le campus et qui veulent simplement travailler. Et ces gens-là ne s'expriment pas.
C'est ça qui me met en colère, moi. C'est qu'en fait, cette majorité silencieuse, elle ne s'exprime pas. Et c'est pour ça que demain, je lui ai demandé de venir à 9h du matin. Et c'est là où j'en veux au gouvernement. Parce qu'il y a 200 personnes, ils ne sont même pas capables
de faire régner l'ordre, leur dire voilà, vous êtes exclus 15 jours, 3 semaines, un mois.
Mais bien sûr, mais personne n'osera le faire.
Non, les sanctions,
c'est exactement ce qu'il faut faire.
Pourquoi personne n'osera le faire ? D'abord, est-ce que le règlement intérieur le prévoit ?
C'est assez compliqué, visiblement, parce que pour tout vous dire, Matignon est quand même très en colère de ce qui se passe.
Oui, à juste titre.
Voilà. Et elle n'est pas vraiment sur la ligne de Mme Retailleau. Et la présidence
mais vous
de
la connaissez
République
la ligne de Mme Retailleau
et la présidence
vous l'avez entendu, Mme Retailleau.
On va l'entendre. Et la présidence de la République non plus n'est pas très contente de ce qui se passe. Oui. Mais ils sont incapables d'entrer vraiment dans ces dossiers. C'est ça qui est sidérant. C'est-à-dire que quand tu parles en off avec ces gens-là, ils disent on est complètement d'accord avec vous.
Sauf que
voilà ce qu'ils te disent.
Un ministre de l'enseignement supérieur.
Ils sont incapables d'agir.
Pardon de dire ça, mais un ministre de l'enseignement supérieur, ça se change.
Ils sont complètement d'accord. Ils disent c'est un scandale, c'est une honte, etc. Bon, bah, qu'ils agissent.
Pascal, un ministre de l'enseignement supérieur, ça se change.
Mais ils ne la changeront pas, Mme Retailleau, parce que c'est se déjuger, etc. Il faut changer Mme Retailleau, il faut changer l'administrateur à Sciences Po. Il faut mettre un préfet, type l'allemand, qui était très bien, par exemple.
c'est bien. C'est une bonne idée.
Il avait bien... Voilà, c'est exactement le
profil.
Non,
parce qu'il avait un profil ferme.
C'est exactement, il faut mettre ce profil-là. Écoutez, Mme Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur.
Je crois qu'on doit parler de la vie étudiante, de la vie étudiante. Sur les points de Sciences Po, j'ai exprimé chez vos collègues et je fermerai vous dire que le débat, oui, l'expression, oui, le blocage, non, et je dirais l'escalade, encore moins.
Vous trouvez que c'est à la hauteur des déclarations comme ça?
Pardon, j'ai le droit de dire une grosse vacherie. Enfin, c'est français ce qu'elle a dit?
Franchement,
mais c'est une syntaxe approximative. Mais on c'est, une, des c'est des mots qui sont pas dans l'ordre.
Et cette dame est ministre de l'enseignement supérieur. Franchement, c'est affligeant.
Les mots sont pas dans l'ordre.
Affligeant. Non, mais vraiment. Et c'est pour ces gosses que le scandale, c'est pour les Pierre-Alexandre. Ils en ont rien à foutre.
Surtout qu'ils réagissent.
De ces gosses qui font Sciences Po, ils s'en fichent. Franchement, c'est pas bien. Ouais. Vraiment, c'est pas bien. Manuel Valls, d'ailleurs. Écoutez-le ce matin, ce qu'il a dit à Sciences Po, parce qu'il est sur notre ligne.
Vous êtes en colère, là. Hein.
La direction s'est engagée à un débat qui porte sur les revendications de ces étudiants qui ont bloqué l'Institut, et notamment sur la suspension du partenariat de l'école, j'ouvre les guillemets, avec les universités et les organisations soutenant l'État d'Israël. Donc on va organiser un débat sur la légitimité l'expression de haine des Juifs et d'Israël. On va se plier aux exigences de l'extrême-gauche de la France insoumise et de fait de leurs alliés islamistes. Et on va plier devant une minorité d'étudiants violentes qui terrorisent la majorité
et
qui bloque Sciences Po.
Comment vous
j'appelle ça de la lâcheté. J'appelle ça une reddition face à l'islamo-gauchisme. Et j'appelle ça de la soumission, parce que cela rappelle en effet le livre de Michel Houellebecq sur un roman, mais qui anticipait ce que pouvait dire la soumission face à l'islamisme.
Ben oui.
Il y a une contradiction, parce que vous évoquez une minorité, et vous en faites aujourd'hui une
mais
majorité qui nous ferait basculer.
Tu fais des découvertes.
Et après, peut-être qu'on discutera de la
situation. On peut quand même aussi. Aussi hein.
Non, mais Olivier, on va avancer. Ne finissons pas parce que c'est ce qui se passe à Gaza.
Oui.
Mais c'est pas le sujet ce soir.
Ah.
Je suis désolé de vous le dire, c'est pas le sujet ce soir.
D'accord.
Mais en revanche, on peut en parler, mais c'est pas le sujet de Sciences Po.
Ça veut pas dire que c'est pas le
sujet.
Bon, et je suis pas certain que ça ait un rapport aussi direct que vous le sous-entendez, Olivier.
Attal. Yvan Attal. Ce qui se dit parfois de plus intéressant, c'est pas des hommes politiques qui le disent, c'est pas forcément des journalistes qui le disent, c'est des artistes qui le disent. Et Yvan Attal était
chez Frédéric Aziza.
Frédéric Aziza. Manifestement.
L'incontournable.
C'est, on appelle ça la maïotique. C'est faire accoucher les uns et les autres, de paroles fortes. Et ce qu'a dit Yvan Attal, à mon avis, il faut l'entendre avec attention. Tout d'abord, il a parlé de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez ce qu'il dit.
Et c'est ce qu'il fait Mélenchon.
Mélenchon qui multiplie les déclarations antisémites, on va dire. Hein.
Il n'est pas idiot, enfin, il est totalement crétin de faire ce qu'il fait. Mais il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait.
Il est vrillé, il est fou. Il est antisémite.
Bah, c'est difficile aujourd'hui de ne pas imaginer qu'il se soit alors pris au jeu s'il se défend d'être antisémite. Il n'y a qu'à le voir, sa tronche, et de voir la haine qui l'anime, la haine qui transpire de tous, de tous ses pores pour ne pas penser qu'il n'a pas un tout petit peu d'antisémitisme en lui.
Mélenchon.
Hein. Bon, il dit clairement les choses avec beaucoup de courage. L'antisémitisme, il en a également parlé.
L'antisémitisme aujourd'hui, virulent, est à gauche, mais ça fait un moment déjà.
Mmh. Et c'est pour ça que vous avez dit, on assiste à une orgie d'antisémitisme.
Ben, depuis le 7 octobre, c'est quand même délirant.
les actes antisémites ont augmenté de combien?
1000 et quelques pourcents.
Ben voilà, ça devient délirant, une orgie d'antisémitisme. Tout le monde s'en donne à cœur joie, quoi.
Tout le monde, c'est-à-dire?
Bah dans les facs, les étudiants, les gens, c'est de tous les côtés. On profite de tout ça pour... Mais moi, j'ai jamais pensé que le conflit israélo-palestinien était autre chose que de l'antisémitisme. Hein. C'est pas une question territoriale. Donc c'est pour ça, en réalité, quand les gens disent « mais c'est quand même étonnant de voir toute cette jeunesse qui s'émeut pas pour le problème des musulmans, les Ouïghours, les Haut-Soudan, et machin, etc. Ben » non, mais évidemment, évidemment, il y a un antisémitisme clair et net. Là-bas, qu'on n'importe rien. C'est le même conflit. D'ailleurs, c'est l'antisémitisme.
Gérard Haro, l'ambassadeur Gérard Haro, qui était l'invité il y a quelques semaines ici, il dit « Israël, c'est le juif des nations. »
Ah, ouais, peut-être.
C'est ce que disait aussi, on le dit depuis des années, mais c'est ça. Le juif des nations, l'antisémitisme, c'est ça.
L'antisémitisme, je veux dire, les problèmes d'Israël ou les problèmes des juifs de France, c'est le même. C'est la haine des juifs.
Il y a deux choses que je voudrais dire, ou une, je ne sais pas. Yvan Attal, c'est un ami personnel depuis longtemps. Ce qui se passe là, et après le 7 octobre, il parle. Parce que son amour d'Israël, il a des, comme moi, il a de la famille en Israël, j'en doute pas un seul instant, il parle. Il parle alors qu'il vit dans un milieu artistique où on n'a pas le droit de parler de ça. Au César de cette année, on n'a pas parlé du 7 octobre. Vous avez une comédienne qui a perdu sa famille là-bas, qui n'en a pas dit un mot. Donc il parle parce que maintenant, la parole se libère. Il a fait un film, je lui avais dit, Dieu sait s'il a fait des films merveilleux. Il y a un film qui est très mauvais sur qui avait été très mauvais sur l'antisémitisme où il ne parlait que de l'extrême droite. Et je lui dis il est très mauvais ton film. Il n'a pas barguigné. Il m'a dit mais si tu savais le problème que j'ai eu avec les artistes parce qu'une partie du film a été tournée en Israël. Et maintenant il y a deuxième chose. Il dit maintenant autre chose que personne n'osait dire que je disais depuis 30 ans. C'est l'extrême gauche le problème.
C'est la gauche,
c'est l'extrême gauche le problème pour les.
Bon. Non, On écoute Attal. Parce que vraiment, je trouve que sa parole mérite d'être entendue. Je ne sais plus où voter, quoi. Je ne sais pas pour qui voter. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, ce qu'il a dit. Écoutez-le.
Je ne sais plus pour qui je dois voter. Je ne sais plus qui.
D'ailleurs, vous allez voter ?
Je ne sais pas.
Aux européennes ?
Je ne sais pas. Je ne sais plus pour qui voter. Je ne peux plus regarder le football puisqu'ils sont tous anti-israéliens, anti-sionistes. Ils se drapent du drapeau palestinien dans les stades. Le Paris Saint-Germain est financé par le Qatar. Donc, je ne peux plus être moi-même. Ouais. Je ne peux plus partager des choses avec d'autres Français parce que je sais que à des endroits, on veut me couper la tête. C'est quand même fou de ne plus être moi-même tous les jours de ma vie dans mon propre. Mais bien sûr que ça pèse.
Ça pèse.
Mais bien sûr.
Je l'ai trouvé extrêmement courageux parce qu'il s'expose. Ça m'a fait penser à un extrait dans un journal d'une personne disant « Je ne pourrai plus jamais être heureux depuis le 7 octobre ». En plus, il vient d'une sensibilité plutôt, si ce n'est de gauche, plutôt progressiste. Bon. Et donc, il a une double souffrance, une double colère. D'abord vis-à-vis de la situation faite aux Juifs, que ce soit au Proche-Orient ou dans la diaspora, en disant « Comment on va faire ?» Et vis-à-vis d'une partie de la gauche. Je continue à dire d'une partie de la gauche. J'ai un seul point de désaccord total avec lui, mais je comprends aussi là ce qu'il... C'est quand il dit que ça n'est absolument pas une question territoriale. C'est bien évidemment aussi une question territoriale.
Ça vous arrange bien de dire une partie de la gauche quand...
Oui, c'est une partie de la gauche.
Mais vous avez...
Mais pourquoi la vous avez tout le monde?
Mais parce que c'était la NUPES, cher ami. Ça vous ennuie, la NUPES. Ah, ça vous ennuie, je le comprends bien.
Allez-y.
Mais c'est pas nouveau.
Mais enfin, vous avez... Je répète que tous les gens de gauche du PS doivent leur siège à Jean-Luc Mélenchon. Je n'y peux rien.
Et en connaissance de cause.
Et en connaissance de rien.
Sur la situation...
Je suis désolé de vous le dire.
Moyen-Orient dans l'accord électoral de la NUPES.
Mais non, mais Mélenchon était déjà Mélenchon.
Les positions de Jean-Luc Mélenchon
étaient
connues.
Bah, vous faites parce que vous feriez mieux de dire oui, une partie de la gauche est digne dans ce moment-là. Vous feriez mieux de dire oui, une partie de la gauche depuis le 7 octobre a été au rendez-vous.
Olivier, je vous feriez
non, c'est pas bien de faire ça.
Olivier, c'est pas le parti, c'est pas le Parti communiste qui a fait voter.
Je représente pas le Parti communiste. Georges Fenec. Vous représentez le LR ici?
Non, je ne dis pas ça.
Donc pas comme ça.
Je dis la gauche et la NUPES.
D'accord.
Moi, je me souviens que le Parti communiste ne voulait pas. Ah, je peux finir, ma
Je vous en prie.
Que fait voter quand même le régime d'apartheid, il me semble.
Oui, c'est une qualification qui est retenue des fois internationalement.
Bon,
Olivier,
rassurez-vous. Combien même
vous
voyez là,
Olivier, c'est pas grave.
Cher Olivier, rassurez-vous.
Vous feriez mieux de dire que les insoumis sont isolés.
Rassurez-vous, la NUPES se reformera.
Ah non.
Elle évidemment, se reformera pour évidemment. Gagner des sièges.
Je mets mon billet, vous mettez l'Europe.
Eh bien alors Monsieur Guedj perdra son siège, alors Monsieur Faure perdra son siège, avec Monsieur Boris Vallaud perdra son siège, et toute la gauche du PS perdra son siège. Ses sièges. Olivier, pour clore sur ce sujet, combien même une partie des gens formant la NUPES ignoraient les propos de Mélenchon à la dernière législative. Pourquoi ne s'en sont-ils pas détachés là? Pourquoi n'ont-ils pas dit on ne peut plus faire groupe commun, faire intergroupe commun avec ce monsieur? Pourquoi ils ne s'en sont pas détachés?
La NUPES, elle était déjà en soins palliatifs avant.
Oui, mais personne n'a dit.
Bon, mais oui. En plus, vous êtes des observateurs de la
politique. LFI tenant ces discours-là, je me retire de l'accord électoral. Personne ne l'a dit.
Et dans les municipalités,
qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que je vous dise ce qui se passe dans la municipalité de Nantes? Vous pensez que le PS ne travaille pas avec les élus LFistes? Parce qu'autrement, ils n'ont pas la majorité.
Bien sûr.
Excusez-moi, dans toutes les mairies. Comment ils font dans les mairies?
À Bordeaux. Vu le mode de suffrage sur une... Non, pas sur une municipalité.
Je crois que...
Avec la prime à liste...
Alain Finkielkraut dans le Figaro. Très intéressant. Oui. Ce matin, Alain Finkielkraut, le problème d'Israël, ce n'est pas le Hamas, c'est Netanyahou. Le Hamas, en effet, n'est pas un problème, a dit Alain Finkielkraut. C'est un ennemi qui veut non seulement la perte d'Israël, mais l'extermination des Juifs, comme il l'a montré le 7 octobre. Il dit, et on va le voir, Netanyahou est le problème parce qu'il bloque toutes les issues, ferme toutes les portes, sabote consciencieusement toutes les solutions. Alors même que Tsahal plaide pour le retour de l'autorité palestinienne à Gaza, le premier ministre israélien s'y refuse obstinément. Pourquoi? Parce qu'il perdrait aussitôt le soutien des extrémistes de son gouvernement. Tout le monde condamne à juste titre, la politique de Netanyahou depuis des années. Et notamment, beaucoup de juifs français, je pense à Jacques Attali, qui n'a pas de mots assez durs sur Netanyahou. Ouais. Et il n'a pas tort.
Oui. Bon, enfin oui, enfin je regarde pas les positions des juifs français à l'aune de Jacques Attali, pardon de vous le dire. Hein.
C'est une voix qu'on peut écouter.
Oui.
Enfin, admettez que la coalition de Bibi est dérangeante.
Si je peux me permettre. Je n'ai pas attendu le 7 octobre pour dire tout le mal que je pense de cette coalition, puisque je lui ai dit à lui-même à Paris 2 mois avant le 7 octobre. Il n'a pas été content, mais je lui ai dit. Mais il manque une seule chose. Je suis prêt à signer l'article de Finkielkraut. Je suis prêt à le signer. À un seul point près, c'est qu'il oublie le principal. Le principal, il y a encore plus dangereux que pour l'Iran, pour l'État d'Israël, c'est le système électoral, proportionnel, qui a obligé justement Netanyahou à se s'allier avec ces deux partis-là.
Obligé. Non, il pouvait refuser le poste de Premier ministre et s'allier avec le Likoud, ce qu'il n'a pas fait.
Non,
ça
ne suffisait pas parce que M. Gantz a refusé. Malheureusement,
il nous reste 5 minutes.
Le système électoral, c'est une fabrique de crétins
d'escrocs. Oui. Mais il pouvait dire.
Il nous reste quand même le pire Premier ministre de l'histoire.
Il nous reste 5 minutes et je voulais parler de Jean-François Akili, qui est licencié par Radio France. Cette histoire est extravagante. Accusé d'avoir participé à l'écriture de l'autobiographie du président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Ce qu'il dément, on n'a pas de preuves. Le journaliste a été licencié pour des manquements répétés à la déontologie. Les avocats à un moment avaient parlé et ils avaient imaginé un accord et Mme Veil a dit non, c'est un jugement politique.
Bien sûr.
On en fait un symbole d'Akili.
Bien sûr.
Donc ces gens effectivement virent, alors là personne ne défend M. Akili, il n'y a pas un journaliste de France qui défend M. Akili.
Pas de syndicat.
Évidemment, pas de syndicat.
Pas Reporters sans frontières, personne.
Voilà, il est licencié pour faute grave, pour cause de manquement répété aux obligations déontologiques relatives aux collaborations extérieures. Il a fait ce qu'en fait tous les journalistes.
Tous.
Et lui, il ne l'a même pas fait, puisqu'il n'a même pas écrit de livre avec Jordan Bardella.
Absolument.
Donc, simplement, le problème, c'est qu'il est suspecté. C'est la loi des suspects, maintenant.
Oui.
La loi des suspects.
Mais judiciaire.
Indiqué à l'AFP. Donc,
il va aller au prud'homme.
Au prud'homme, c'est ça. Il gagnera au prud'homme.
Jean-François Akili avait été suspendu. Il a affirmé j'ai échangé avec Jordan Bardella, comme je le fais avec tous les responsables politiques depuis 25 ans. Nous aurons parlé à sa demande ce que pourrait être son expression pour un livre d'entretien. J'ai refusé le projet.
La direction de France Info. La direction de France Info. Le rédacteur en chef, l'adjoint du rédacteur en chef. C'est des drôles de personnes.
Bien sûr.
C'est des drôles de personnes.
Bien sûr.
Voilà, je ne parle pas, même pas de l'article du Monde. Aujourd'hui, il y a un article dans le Monde, il n'est même plus signé.
Oui.
Il avait été signé par Ariane Chemin, aujourd'hui le papier du Monde n'est même pas signé.
C'est fini, oui.
Mais
oui,
mais c'est vrai, voilà comment agissent ces gens.
Mais ils ont eu sa peau. Hein.
Ils ont eu sa peau.
Quand même. Hein.
Ils ont eu sa peau. Le service public de l'audiovisuel se déshonore. On est loin de Je suis Charlie. Ce sont plutôt des charlots et avec l'argent des Français, a dit Monsieur Chenu. Monsieur Dupont-Aignan a dit scandaleux acharnement de Radio France à l'égard de Jean-François Akili, qui n'a commis aucune faute professionnelle. Son seul tort, ne pas être politisé à gauche. Il est temps de reprendre le service public au service du public, etc. C'est invraisemblable. Cette histoire est invraisemblable. Invraisemblable.
C'est un procès de Moscou. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait ce qu'on croit que vous avez fait, mais vous n'avez pas le droit de le démentir, de prendre un avocat. Votre...
Bien sûr.
C'est injouable.
Bien sûr.
Et ouais, d'ailleurs, on cherche pas la vérité, on cherche la sanction.
Et je vous assure que c'est vrai, par un hasard invraisemblable. J'ai dû le dire. Je venais chez vous et j'ai entendu un commentaire, c'était avant cette histoire, et c'était signé Jean-François Akili. Et je me suis dit en mon fort, tiens, voilà enfin quelque chose de neutre et d'objectif. C'est pas tombé au hasard. Hein. C'est incroyable.
Quand vous dites qu'aucun journaliste de France ne regarde un peu ce qui circule sur Twitter, c'est pas tout à fait le cas. Il va y avoir des réactions.
Ah bon?
Oui.
On va regarder.
C'est pas un déchaînement. Hein.
Écoutez, en interne...
C'est pas un déchaînement.
On va regarder. Mais il faudrait.
Ouais. Ils sont plus rebellés contre ce qui arrive à Meurice qu'à M. Akili. Hein.
Non, je dis pas que c'est une tsunami de réaction, mais...
Ouais. Non, mais ça...
C'est-à-dire qu'il est viré sur un article sans fondement, écrit par une consoeur du Monde, qui s'appelle Ariane Chemin, qui est donc à l'origine de son éviction, de son licenciement, et c'est couvert par une direction soumission, et c'est couvert par des petits télégraphistes, des petits soldats comme ça au service pour garder leur place.
Oui, je pense que c'est une.
Et ces gens viennent donner des leçons de journalisme.
Minable, je l'ai dit.
Non, mais c'est des minables.
Sans vouloir défendre Mme Veil, je pense, je sais un peu comment ça fonctionne maintenant dans cette maison qui m'intéresse, je pense qu'elle a dû faire l'objet elle-même de grandes pressions. C'est pas elle qui a décidé, elle, c'est parce qu'on lui a demandé.
Claire. Les syndicats.
Bravo, ce sont les syndicats.
Les syndicats, bien sûr. Voilà. C'est pour ça qu'elle, il fallait la tête de Akili sur un plateau.
Oui. Mais encore à sa décharge,
donc pour sauver
je
ne
pense pas qu'on puisse tenir Radio France sans les syndicats. Vous avez des gens qui s'étaient plutôt estimables, mais qui n'ont rien. Jean-Luc Hess, par exemple, n'a rien fait lorsque... Oui. Même Philippe Val.
Ce n'est pas le bon exemple, Jean-Luc Hess, parce que...
Ce n'était pas un rouge vif.
Non,
même Philippe Val,
franchement, son courage lui aussi brille pas particulièrement par son courage.
Même Philippe Val,
sa prise de parole.
Philippe Val, quand il était, il avait énormément de mal. Le mal qu'il a eu à se séparer, par exemple, de celui qui tenait son nom m'échappe, qui était un brûlot antisémite d'ailleurs, qui a été poursuivi, son nom m'échappe. Il a eu un mal de chien pour ça. Il vous le dira.
Je suis d'accord avec vous, mais bon, ces gens-là ont pu garder leur...
Comment sortir, c'est la question.
Ah, par la privatisation, monsieur. Ouais. Une seule solution.
Quelle est la solution?
Une seule solution, la privatisation. Ouais. Voilà.
Non, je pense qu'il faut...
Non, mais je pose la question.
Il faut un président ou une présidente forte et que l'État accepte un mois de grève. Disons, voilà, c'est pas grave, les antennes sont éteintes pendant un mois.
Ça peut arriver, ça, pour la fusion. Parce que la fusion, il l'a pas, la fusion.
Non, mais je suis assez d'accord.
Ça peut arriver.
Et tant pis. C'est la solution Reagan.
Et, avec
Margaret Thatcher. Non, moi, j'aime bien.
Non, il l'avait fait avec, rappelez-vous, avec les contrôleurs du ciel.
Ça a fait des morts, la solution
de Thatcher. Non, avec les contrôleurs du ciel.
Vous avez raison.
Qui avait fait grève pendant 3 mois et il avait dit, on va mettre les militaires qui vont contrôler le ciel civil. Et ben, il avait viré tout le monde et il a repris après les ondes. C'est ça que c'était. Non, mais Bobissant, c'est autre chose.
C'est quand même. Non, il dit qu'il faut faire du Thatcher.
Je vous assure, c'est quelqu'un qui a 60 ans, qui fait une carrière professionnelle de qualité, qui est humilié, qui est traîné dans la boue, dont la respectabilité est entachée, qui est viré comme un chien pour faute grave. Mais qui sont ces gens?
Qui sont ces gens ?
Et qui étaient appréciés par toutes les sensibilités politiques.
Non,
qui
sont,
à part ça, ce sont des grands...
Non, qui sont ces gens ? Qui sont ces directeurs ?
Non,
ils peuvent se regarder dans une glace,
ces
gens-là ?
Vous êtes injuste. Ce sont d'excellents donneurs de leçons.
Qui sont
ça, il n'y a rien à dire de ce côté-là.
Franchement.
Pour les leçons de morale, ils se posent là, je peux vous dire. Quand il y a un licenciement qu'ils considèrent injuste dans une entreprise privée, je peux vous dire qu'ils sont...
Oui, il y a du monde.
Ah, bah là, il y a du monde.
C'est quand même nos impôts, tout ça, non ?
Crois-tu ?
La rancœur, le ressentiment, oui. Les passions tristes.
Oui.
Oui. C'est triste. Ouais. Monsieur Ben Ki-moon arrive.
Avec un gros
livre. Alors, j'ai le droit de dire un mot de cinéma ?
Vous avez le droit.
Eh bien, moi, j'ai vu ce week-end N'avoue jamais.
Oh, j'adorais.
J'ai trouvé ça formidable.
Moi aussi.
Et non,
on l'a pas vu ensemble, c'est formidable. Non, et j'ai vu la famille Leroy la semaine dernière, je trouve
alors,
ça très bien.
Ouais, alors, c'est pas la famille Leroy, c'est nous les Leroy.
Nous les Leroy, oui.
Ou pas ?
Non, N'avoue jamais.
Non, c'est ce que le cinéma français
fait de
mieux.
Je vais vous dire pourquoi je trouve ça formidable. Parce que André Dussolier et Sabine Azéma
et Thierry Lhermitte
sont trois comédiens. Évidemment que le film, s'ils n'étaient pas dans le film, ça n'aurait pas la même saveur. Mais le film est bien écrit.
Il me semble que c'est 11 fois Sabine Azéma et Dussolier.
Bon, le film est bien écrit, c'est rigolo, c'est sympathique, mais c'est particulièrement bien joué.
C'est quoi la thématique ?
C'est jubilatoire. Alors, je vais vous dire, c'est un homme qui découvre que sa femme l'a trompé il y a 40 ans.
Mais...
Ça vous est arrivé ?
C'est pas le même. Non, pas du tout.
Il découvre. Et effectivement, il part à la recherche de celui qui a eu une aventure avec sa femme. Mais c'est quand même il y a 40 ans. Bon. Mais Dussolier, il est...
Et il va voir que ce monsieur est plus en forme que lui physiquement.
Voilà. Et Dussolier, il est jubilatoire. Thierry Lhermitte, on le voit tout nu à un moment, il est très très bien. Et Sabine Azéma, elle est merveilleuse. Donc je trouve que c'est un cinéma qui est bien écrit, bien joué, formidable. Et alors, tout le monde souriait et riait même dans la salle. C'est un cinéma merveilleux.
Absolument.
Et c'est bien de saluer ça.
On ira
vous l'avez bien dit.
Oui.
Vous en avez bien parlé. C'est important que ce cinéma existe.
Mais oui, bien sûr. Bien sûr.
Bon. On va regarder ce qui se passe du côté du Caire ce soir. On va regarder ce qui se passe du côté du Caire, parce qu'on attend et le monde retient sur ce pour savoir si le Hamas accepte ou pas l'offre qui a été qualifiée d'exceptionnellement généreuse par Anthony Blinken, qui est pour la 7e fois dans la région. Donc on va regarder ça nous aussi avec attention. On sera avec notamment Michel Abitbol, Histoire des Juifs en France. Vous l'avez reçu il y a quelques jours. C'est quelqu'un qui est absolument passionnant pour décoder ce qui se passe sur les campus américains et à la Sorbonne. Et puis Mona Jafarian, cofondatrice du collectif Femmes Azadis, sera là également avec nous.
Laurent Pratt était à la réalisation, Nicolas était à la vision, Rodrigue Le Prado est au son, Benjamin Nau, Lucas Busutil, Guilhem Lafage était là ce soir. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Passez une excellente soirée avec Olivier, avec notre ami Julien Pasquet.
Oh là là, vous allez être content là-haut, là, ça...
Ah, pas du tout, non, il a gagné.
Ah bon ?
Il se rapproche.
Finalement, j'ai l'impression que vous êtes résigné.
Non, c'est pas mon genre.
C'est pas son genre.
C'est pas mon genre.
Mais il a des fins de saison compliquées.
Oui, bon, là, on n'est pas une fin de saison, on est en avril. On est là toute la semaine, je tiens à le dire. Vous serez là le 1er mai ?
Oui.
Bon, et le 2 mai aussi, jeudi ?
Non, jeudi, je ne serai pas là. Vous êtes taquin.
Ah ouais. Il y a une info.
Non mais la vie privée, c'est incroyable.
Vous nous manquerez.
Pour des raisons médicales.
Bien sûr.
Voilà.
Alors, à demain matin.
Oui, j'ai une petite.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloane Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloane.